Rencontre spirituelle aujourd'hui, vendredi le 26 avril, c'est l'anniversaire du décès d'une femme assez exceptionnelle qui s'appelait Adélaïde de Cissé. Cissé, ça s'écrit C-I-C-E, accent aigu, tout simplement, ça s'écrit comme ça se prononce, quoi. Et c'est une femme qui a fondé une congrégation qui s'appelle les Filles du Cœur de Marie. Je vous signale ce qui est paru dans le Devoir au début du mois. Dans le Devoir, il y avait une section spéciale sur la religion. Il y avait plusieurs petites annonces religieuses. Le Devoir du 6-7 avril en page E8. Et on dit que les Filles du Cœur de Marie pratiquent une vie religieuse intégrale, mais qui est vécue en milieu soit professionnel, c'est-à-dire qu'on peut être médecin ou comptable, soit familial, tout simplement dans une famille, oui, soit communautaire, soit en pays de mission, et sans signe distinctif. Ces religieuses dont on ignore l'existence, souvent on peut les connaître pendant 20 ans sans savoir qu'elles sont une religieuse. Filles du Cœur de Marie, elles suivent une spiritualité ignatienne, mariale et eucharistique. Alors ça vaut la peine, c'est très intéressant. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Madame de Cissé, qui était mariée, mais a fondé cette congrégation avec le père de la Clorivière. C'est lui qui a réussi à faire revenir les jésuites en 1814 en France après la Révolution. Et Adélaïde de Cissé a pensé fonder cette communauté avec ce prêtre à cause de la Révolution française, afin que ses sœurs soient ignorées et ne soient pas arrêtées. Et ça s'est perpétué jusqu'à aujourd'hui. Elle est née en Bretagne. Alors que le roi de France, Louis XV, régnait sur la France, elle est née à Rennes, dans une ville très importante de Bretagne, Rennes, rue Saint-Louis, en 1749, un 5 novembre. Elle était la 12e enfant de Monsieur et Madame de Cissé. Madame de Cissé n'a pas très bien accueilli cette naissance, pour la simple raison, la 12e, évidemment, d'abord, mais aussi parce que son mari était très âgé. Son mari, qui était capitaine de dragons au régiment de Bretagne, avait d'ailleurs une devise de famille retentissante, « Au plus vaillant le prix ». Et alors, son père est mort exactement un an après sa naissance, à 70 ans. On l'appelait le chevalier de Cissé. Alors, elle a reçu, elle, le nom de Marie-Adélaïde. Adélaïde, c'est aussi Alice, paraît-il, quand on fait des recherches sur l'origine des noms. Un prêtre qui s'occupait de cette famille, le père de Kersin-Gilly, avait prédit à sa mère, qui était plutôt découragée devant cette nouvelle naissance, il a dit « Consolez-vous, madame, cet enfant fera un jour votre consolation ». Et alors, cet enfant, en effet, a été finalement très bien accepté par sa mère. Elles sont devenues de très grandes amies. Elle a reçu le baptême dans l'église Saint-Aubin. Je le signale parce qu'il y a beaucoup de Saint-Aubin au Québec. Elle a été baptisée le jour même de sa naissance, soit le 5 novembre 1749. Orpheline de père, évidemment, à un an, ça n'a pas été facile. Et vers 10 ans, Marie-Adélaïde de Cissé a fait sa première communion. Chez les visitandines, les sœurs de la visitation dont je vous ai déjà parlé en parlant de sainte Jeanne de Chantal, hein, la grande amie de saint François de Sales, qui a fondé cette congrégation, il y a ici au Québec des visitandines. C'est une congrégation d'ailleurs assez particulière qui accepte des veuves, particulièrement depuis la fondation, et des dames assez âgées aussi. Dès le moment de sa première communion, Marie-Adélaïde de Cissé s'est sentie appelée à la vie religieuse. Et elle se sentait aussi très portée à reconnaître Dieu. Elle avait une foi très naturelle, très spontanée. Bien que très jeune, hein, Puis elle avait aussi le désir de rendre service aux autres. Son cœur était brûlant de désir d'aider les autres. Et avant l'âge de 12 ans, d'ailleurs, elle prélevait sur ses économies le prix pour payer des frais d'apprentissage des petites filles pauvres. Afin d'assurer leur avenir, elle avait déjà cette idée-là avant l'âge de 12 ans. D'ailleurs, elle s'était fait un petit règlement de vie. Et c'est assez étonnant. Toute jeune comme ça, elle écrit « Le matin, ma première pensée sera pour Dieu. Aussitôt que je serai éveillée, je me livrerai sans balancer un instant. Je réciterai mes prières avant la messe. Je ferai mon oraison qui sera d'un quart d'heure. Je me livrerai à l'étude. J'élèverai souvent mon cœur vers Dieu. Je ferai chaque jour une petite mortification à l'honneur des cinq plaies de notre Seigneur Jésus-Christ. » Elle ajoute, dans son petit texte, « Je ne répondrai brusquement à personne. Je parlerai toujours avec douceur, je m'appliquerai aussi soigneusement à plusieurs travaux de ménage. Tous les soirs, je ferai, si possible, une visite au Saint-Sacrement. Avant de coucher, et après ma dernière prière, je garderai le silence. » Curieux, hein? Elle avait dû connaître ça chez les visitandines, hein? Qui gardent le silence comme toutes les sœurs cloîtrées ou les moines cloîtrés gardent le silence le soir. Hein? Un silence total, ce qu'on appelle le silence de nuit. C'est très strict. Elle termine son texte en disant, prête de m'endormir, je m'occuperai de la pensée de la mort. C'est pas lugubre. Je ne crois pas. Vous savez, les gens étaient entourés de morts à cette époque. D'abord, elle a perdu son père à un an. Elle a, je crois, deux frères et deux sœurs qui sont morts quand elle était jeune. Et alors, les gens étaient habitués à la mort. La moyenne d'âge était d'environ 40 ans au moment de la mort, à cette époque. « Je vais faire, dit-elle aussi en terminant, je vais faire tous mes efforts pour observer ceci avec la grâce de Dieu. » C'est déjà très beau, ça, avec la grâce de Dieu. « Avec elle, je peux tout. Sans elle, je ne suis capable de rien. » D'ailleurs, à 15 ans, un ou deux ans plus tard, elle terminait souvent ses lettres par ces mots, « Tout pour plaire à Dieu, rien pour nous satisfaire nous-mêmes. » Pour nous satisfaire nous-mêmes égoïstement, sans doute, hein, c'est ce qu'elle veut dire. Parce que j'imagine bien que elle devait être capable de respirer une fleur pour se satisfaire, ou manger quelque chose de délicieux que sa mère lui préparait. Ou qu'elle préparait elle-même, probablement. À 19 ou 20 ans, Marie-Adélaïde, qui a été élevée dans un hôtel particulier, l'hôtel de Cissé. Elle allait d'ailleurs voir ses cousins au château de Cissé. Alors, à 19 ou 20 ans, Marie-Adélaïde a été séduite justement par des mondanités. Et puis, elle est devenue moins pieuse, et une amie a eu la franchise, et je dirais même la charité, de la prévenir. Elle a répondu, « Mais il n'y a rien de mal, je remplis les préceptes. » En somme, quoi, elle allait à la messe le dimanche et des choses comme ça. Mais finalement, elle a réagi vigoureusement. Elle est entrée au noviciat des visitandines à Rennes, dans la ville où elle est née. Et là, elle trouve un grand recueillement, puis l'union à Dieu. Mais au bout de quelques mois, son désir de travailler pour aider les pauvres était plus fort. Elle voulait aider surtout les petits, les malades. Alors, elle n'était pas à son aise dans un cloître. Parce que dans un cloître, on vit de charité, d'accord, d'amour fraternel, de désir d'aider les autres, de rendre service, etc. Mais c'est à l'intérieur même de la communauté qui peut être très petite, ça peut être parfois seulement 15 moniales ou 15 moines et même moins, mais ça peut être aussi énorme. Il y a eu des monastères dans l'histoire qui atteignaient jusqu'à 800 moines. Il y a quelques années, il y en avait en Allemagne qui en avait 300 moines. J'en ai vu, moi, de 115 moines. Et alors, revenu en plein monde, des jeunes gens de la haute société lui ont demandé sa main, ont voulu l'épouser. Mais elle les a tous refusés parce qu'elle était résolue, vraiment résolue au fond de son cœur, de n'appartenir qu'à Dieu, en étant religieuse, ou dans un état de virginité consacrée. Et c'est ce qu'elle va fonder, des femmes qui se consacrent à Dieu, qui demeurent vierges, chastes, et qui se consacrent incognito, oui, souvent incognito, sans qu'on le sache, aux besoins des autres. Alors, Dieu lui a fait la grâce de rencontrer comme directeur spirituel un prêtre, l'abbé Boursoul, qui était vraiment un homme de Dieu. Il a été son guide pendant 5 ans, ça l'a beaucoup aidé, ça, de 20 à 25 ans. Elle écrivait d'ailleurs ses conseils après chaque confession, et puis, il est mort un lundi de Pâques 1774, et Marie-Adélaïde de Cissé a écrit à ce moment-là, « Seigneur, le saint qui m'a parlé de votre part, en parlant de ce prêtre, évidemment, m'a dit que j'étais destinée à être une mère des pauvres, une épouse de Jésus-Christ, un séraphin dans ce monde et en l'autre. » Un séraphin, ça n'a rien à voir, évidemment, avec séraphin poudrier. Je vous explique, au cas où il y a des jeunes qui m'écoutent, séraphin, c'est une sorte d'ange. C'est un ange parmi les plus nobles et les plus beaux. Alors, donc, un séraphin dans ce monde et en l'autre. Elle ajoute dans ce texte, épouse de Jésus-Christ, mère des pauvres, quelle heureuse destinée, faites, Seigneur, que je la remplisse, et gravez à jamais dans mon cœur les préceptes que vous avez dictés à celui qui m'annonçait vos volontés sur moi. Alors, en septembre 1776, 2 ans plus tard, elle trace un règlement de vie de personnes qui seraient consacrées à Dieu, sans costume, mais vivant la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. Ces personnes auraient une vie de prière et d'oraison, comme dans le monastère de la Visitation, elle a vécu à peu près 6 mois. Mais des personnes, des femmes qui sortiraient pour aller soigner les malades et secourir les pauvres. Alors, durant 13 ans, tout en priant, en se dépensant pour les pauvres et les malades, elle allait vivre de toutes sortes d'essais, de tâtonnements, de recherches. C'était une époque tragique, d'ailleurs, parce qu'elle était fidèle à un idéal intérieur, mais c'est un moment, c'est la Révolution française. Elle obéit à sa mère comme si c'était une supérieure, et puis sa mère tombe malade, et Marie-Adélaïde la soigne avec un dévouement vraiment assidu, parce que elle sentait peut-être un peu au début que sa mère la rejetait, mais elle a su l'aimer profondément, s'en est occupée de jour et de nuit jusqu'à sa mort, et l'amitié s'est rétablie, et Adélaïde, à 34 ans, elle a retrouvé l'amour de sa mère, c'est émerveilleux, et elle se montre plus que jamais l'épouse de Jésus-Christ par sa piété profonde. Elle est aussi, comme lui avait prédit ce prêtre qui l'a dirigée, mère des pauvres. C'est comme ça qu'on l'appelle souvent, même aujourd'hui, quand on parle d'elle, mère des pauvres. Elle a un dévouement sans mesure, et c'est dans un élan de générosité qui dépasse ses forces que finalement Adélaïde tombe malade et se met à cracher le sang. Son frère, qui est l'évêque d'Auxerre, qui est un évêque un peu mondain, un peu fier, mais qui est bon quand même, lui conseille donc de faire une cure à Dinan. Alors, mademoiselle de Cissé, Adélaïde de Cissé, part sans enthousiasme pour se reposer. Mais c'est là que Dieu lui réserve de grandes grâces, et en particulier de rencontrer le guide providentiel qu'elle attend. C'est le père Picot, P-I-C-O-T, de Clorivière. Et dès la première entrevue, le 4 août 1787, Marie-Adélaïde de Cissé se sent en confiance avec ce prêtre, qui est à la fois grave et bon. Alors elle s'ouvre à lui, sans tarder, de ce projet-là qu'elle a de vie religieuse, d'une forme complètement nouvelle, hein, inattendue. Et le père de Clorivière ne doute pas qu'il y a là une vocation religieuse très spéciale. Donc, chez sa nouvelle pénitente, genre de vie qu'elle entrevoit paraît trop spécial, peut-être trop insolite, pour qu'il puisse l'approuver tout à fait. Il hésite évidemment devant des idées comme celle-là, d'être des religieuses sans costume, qui exercent des professions qui sont ignorées par les gens, personne ne sachant qu'elles sont vraiment des religieuses. Alors Adélaïde, finalement, entre le 8 septembre 1788 au couvent des Filles de la Croix de Saint-Servant. Elle est résolue, lui a commencé un noviciat très spécial, sous l'autorité d'une religieuse merveilleuse qui s'appelle Mère Marie de Jésus. Une religieuse de ces Filles de la Croix de Saint-Servant écrit d'ailleurs le 4 octobre 1788, donc un mois après son entrée, jour de Saint-François, Mademoiselle de Sissy se revêtit d'une robe de laine noire très commune, faite de la manière la plus simple, telle que les personnes de la classe ouvrière les portent, un tablier noir, une petite coiffe de la même simplicité, voilà le costume du dimanche. Pour les jours de la semaine, un petit corsage noir et une jupe avec un tablier de coton bleu. Et dans ce costume, Mademoiselle de Sissé pensait au parloir, pensait P-A-N, n'est-ce pas, faisant des prétends, des maladies. Donc dans ce costume, elle pensait au parloir, tous les malheureux qui réclamaient son secours. Lorsqu'ils ne pouvaient venir, elle se transportait dans leur pauvre demeure. Et les trouvant souvent sur la terre nue, j'ai vu ça moi, hein, sur la terre nue, ou sur la paille pourrie, j'ai vu ça aussi, elle revenait elle-même chercher paille, bois, puis du bouillon. Elle s'enfonçait dans les quartiers pauvres, continue le texte de cette religieuse, elle s'enfonçait dans les quartiers pauvres, chargée de vêtements, de linge, de bonnets, de mouchoirs, de bas et de chaussures. Et dans les cabanes et les chaumières, sa venue était attendue et fêtée. Elle s'arrêtait. Elle s'asseyait auprès des malades, des infirmes, des vieux matelots ou des pêcheurs, des veuves, des enfants de naufragés, des ouvriers sans ressources, et elle les réconfortait par ses paroles, encore plus que par ses dons. Je continue ce très beau texte. Au vieillard, sans feu, Mademoiselle Adélaïde de Sissé apportait du menu bois, l'allumait, puis en approchait ces pauvres gens qu'elle faisait s'asseoir autour et se chauffer. Les enfants, surtout, lui inspiraient une grande tendresse. En somme, elle reconnaissait en eux, disait-elle, le petit enfant de Nazareth, Jésus. Elle voulait lutter aussi contre l'impiété qui cherchait à pénétrer partout. Alors elle distribuait autour d'elle, des bons livres. On peut se demander de la qualité de ces livres, mais c'était des livres pour les gens simples. Elle offrait aussi des crucifix et des images de Marie. Souvent les gens n'avaient rien. Vous savez qu'à cette époque, des images, sous la Révolution française, c'était très rare. Dans le texte de la religieuse qui parle de Madame de Sissy, de Mademoiselle de Sissy, on dit, chacun disait qu'il fallait bien pardonner quelque chose au genre de vie qu'elle avait adopté, en faveur de son amabilité et son indulgence. Et le père de Clorivière lui disait, l'obéissance, la charité, la raison, voilà ce que je vous recommande encore. L'obéissance, la charité, la raison. Ces vertus vous feront avancer à grands pas vers la perfection. L'obéissance dissipera vos craintes, disait le père de Clorivière. La charité vous enrichira sans cesse de nouveaux mérites. Et la raison, c'est-à-dire la prière silencieuse, vous unira étroitement au Seigneur Jésus. Vous trouverez en lui une force, une constance que vous ne trouverez pas en vous-même. Alors, ses amis voulaient qu'elle revienne à Rennes. Alors, il lui disait imiter Saint Joseph. Prenez pour vous-même les paroles qui lui ont été dites par l'ange au moment de la fuite en Égypte et appliquez-les à votre situation et alors demeurez là jusqu'à ce que je vous le dise. Mais des graves événements vont arriver. En France, elle gronde comme un orage, on le sait, hein? La grande révolution de 1789. Et cette révolution, la révolution française, va tendre non seulement à détruire tout ce qu'il y avait auparavant sous les rois de France, mais va aussi chercher à détruire la religion. C'était terrible, l'attaque contre l'Église au moment de la Révolution française. L'attaque contre la foi. Le 13 février 1790, il est interdit à quiconque le désir de prononcer des vœux solennels de religion, c'est-à-dire de s'engager solidement à être des religieux ou des religieuses. Alors, le collège de Dinan, dont le père de Clerivière était le directeur, devient un bien de l'État. L'État s'empare du collège. Le père doit s'en aller. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Que faire? Alors, le père de Clerivière songe à partir pour l'Amérique. Sans doute pour les États-Unis. Peut-être aussi pour le Canada. Or, le 19 juillet 1790, après son oraison, alors que le père de Clerivière songe à un rétablissement de la Compagnie de Jésus en Amérique, il lui est dit intérieurement d'une manière très vive, « Pourquoi pas en France? Pourquoi pas dans tout l'univers? » Rétablir les Jésuites, n'est-ce pas? Alors, il découvre, comme dans un clin d'œil, et cependant, dans bien des détails, un genre de vie tel que celui dont il va écrire aussitôt les conditions. Ces religieux qu'il songe à fonder feraient les trois vœux et vivraient comme au premier siècle de l'Église, comme les prédicateurs de l'Évangile et les premiers chrétiens, au temps des grandes persécutions du début de l'Église. Il y a quelque temps de là, le père de Clerivière a eu l'inspiration soudaine de faire pour les femmes ce qu'il devait faire pour les hommes, et après avoir demandé au Saint-Esprit de l'éclairer, il a écrit tout de suite, sur le champ, là, tout ce qui lui était prescrit intérieurement. La Société des Filles du Cœur de Marie avait son premier plan, ses règles, les mêmes que celles d'aujourd'hui. Quant au fond, c'est la même chose aujourd'hui. Et Marie-Adélaïde, mademoiselle de Cissé, est chargée de les copier, puis de les recopier en multiples exemplaires. Il n'y avait pas des photocopieuses dans le temps. Quand on pense à ça, c'était terrible. Il fallait toujours écrire et réécrire et réécrire, même à cette époque où il y avait l'imprimerie. Mais là, c'était la persécution de ne pas utiliser d'imprimante. Alors, elle les commente, les règlements, les règles. Elle les explique aux personnes qui désirent vivre comme religieuses en plein monde, sans costume, prêtes à faire ce que Dieu leur demandera. Alors le père de Clerivière reconnaît que mademoiselle de Cissé a eu vraiment une inspiration de Dieu bien avant lui, et lui demande de venir à Dinan pour former à la vie religieuse les personnes qu'il va lui recommander. Le père de Clerivière présente le projet de son inspiration à plusieurs de ses supérieurs ecclésiastiques, là, qui le désapprouvent. Ils peuvent pas comprendre ça. Des sœurs sans costume, des sœurs qui vivent dans le monde, des sœurs qui sont comme des laïcs. Difficile d'accepter ça. Et alors, il va trouver son évêque, Monseigneur de Précigny, et celui-ci décide que le père de Clerivière doit rester en Europe plutôt que d'aller en Amérique pour y accomplir ce que l'Esprit-Saint lui a suggéré pour la plus grande gloire de Dieu. L'évêque, donc, approuve. Le père de Clerivière s'empresse de donner une espèce de lien religieux aux deux sociétés d'hommes et de femmes. Et au matin de cette journée du 2 février 1791, 6 prêtres sont montés avec lui à Montmartre. Vous savez où est le Sacré-Cœur de Montmartre, à Paris. Là où d'ailleurs les Jésuites, pour ainsi dire, ont été fondés par Saint Ignace. et il célèbre la messe. Il reçoit la consécration de ses religieux et de ses religieuses. Que chacun prononce à voix basse avant la communion pour pas attirer trop l'attention. Et le même jour à Paris, quelques filles, donc du cœur de Marie, s'unissaient à l'oblation de Montmartre par une consécration semblable qu'il recevait, lui. Et tandis que quatre autres la prononçaient à Saint-Malo, trois à Paramé, puis Mademoiselle Adélaïde de Sissé, qui était à Dinan ou à Saint-Malo, on n'est pas sûr, a fait la même promesse. Alors, elles étaient 12 en tout, ces filles, ses sœurs. Petite semence, qui devait devenir un très grand arbre, qui va étendre ses ramures dans le monde entier, dans le monde entier. Alors, le 30 avril 1791, le père de Clarivière écrit à Mademoiselle de Sissé, « C'est à Paris, ce me semble, que l'une et l'autre société doivent commencer. Et c'est de là que vient le mal, c'est de là que doit aussi venir le remède au mal. Le temps d'entreprendre quelque chose de grand pour le Seigneur est venu. » Et alors, on va voir dans la suite tout à l'heure ce qui va se passer avec ces deux congrégations fondées par le père de Clarivière et Mademoiselle Adélaïde de Sissé. Nous sommes au moment de la fondation des filles du cœur de Marie et des pères du cœur de Jésus par le père de Clarivière et Mademoiselle de Sissé. Alors, le 6 juin 1791, Mademoiselle de Sissé prononçait le vœu d'obéissance. Elle abandonne son âme à la conduite spirituelle du père de Clarivière. Ça la fortifie, ce vœu. C'est curieux, hein? Et Mademoiselle de Sissé quitte donc sa chère Bretagne vers la mi-octobre. Donc, quelques mois plus tard, elle part pour Paris en diligence. C'était des longs voyages, hein? Et M. l'abbé Cormeau, prêtre du cœur de Jésus, qui sera martyr, était de ce voyage, puis il portait sur lui la très sainte Eucharistie, Jésus vivant. Il y avait trois filles du cœur de Marie qui attendaient Mademoiselle de Sissé à Paris. Un logement était prêt pour elles, aux 8 rue des Postes, et le père de Clarivière, qui était suspect à la police, se cachait. Il n'a pas pu aller accueillir Mademoiselle de Sissé quand la diligence est arrivée à Paris. Il était prudent. Les tracasseries policières entravaient beaucoup l'activité de Mademoiselle de Sissé. Et le père de Clarivière l'a pressé de prononcer ses vœux dans la société le 15 août 1792. La cérémonie de ses vœux est mise en des circonstances tout à fait tragiques. A lieu dans un endroit dont personne n'a le souvenir, c'est curieux, hein? Et là, on sait quand même que le Magnificat a été chanté à mi-voix, tandis que dehors, la foule hurlait en conduisant à la guillotine des charrettes de catholiques et d'innocents. C'était la terreur. Mademoiselle de Sissé a réussi à organiser quelques réunions clandestines chez les demoiselles Bertonnet, dont l'atelier de couture portait le nom de pension. Ainsi, les allées et venues étaient moins suspectes. Mademoiselle de Sissé a dû quitter la rue des Postes pour la rue Cassette. Je connais bien la rue Cassette, j'y ai souvent habité quand je vais à Paris. C'est tout près. C'est dans le 6e arrondissement, tout près de l'église Saint-Sulpice, où Montréal a été fondée, pour ainsi dire. En 1795, le sang ne coule plus, c'est fini, Robespierre est exécuté, la terreur est terminée, mais la société fondée par Madame de Sissé vit toujours dans l'ombre, et on ne peut vraiment pas s'assembler. En 1799, la société compte déjà 259 filles du cœur de Marie. Alors, Mademoiselle de Sissé est dénoncée comme sœur d'émigrés, c'est-à-dire la sœur de gens qui se sont sauvés. Le 23 août, elle est arrêtée et mise en prison 3 semaines. Finalement, elle est relâchée, mais elle est en liberté surveillée. Le 24 décembre 1800, une machine infernale éclate sur le trajet que suit Bonaparte, et son but, c'est l'assassinat du futur Napoléon. Les enquêtes de police révèlent que l'un des conjurés, Carbon a trouvé asile grâce à la protection de Mademoiselle de Cissé. Alors elle est interrogée immédiatement. Elle est incarcérée à la grande prison pour femmes de Saint-Pélagie. Alors mère, on l'appelle comme ça maintenant, mère de Cissé, il commence un apostolat fructueux. Assez étonnant au milieu de ses compagnes de misère dans la prison. Et ces gens sont pourtant bien plus recommandables. Ce sont des femmes qui ont été, au moment de la terreur, des femmes de mauvaise vie, des femmes qui criaient à mort contre les catholiques. Et toutes sont séduites par le rayonnement de la charité de Mademoiselle de Cissé. Elle réussit à gagner tous les cœurs. Elle partage tout avec ses compagnes de prison. Elle partage le linge, les vêtements, les nourritures. Elle leur apprend des cantiques. Elle leur rend toutes sortes de services. Et elle se transforme, elle les transforme plutôt par sa seule présence. Ces femmes, qui sont souvent grossières, cessent tout bruit. Elles cessent de crier ou de chanter lorsqu'elles la voient prier. Elles sont heureuses de favoriser son dialogue avec Dieu. Mais le procès arrive, et là, c'est la cour d'assises. C'est très impressionnant. Le fameux Carbon, l'un des conjurés, là, qui est pas malheureux comme le croyait Mère de Cissé, mais c'était un véritable terroriste, ne craint pas d'accuser un de ses complices, propre neveu du père de Clorivière, qui avait pu fuir. Il prétend même avoir vu Mère de Cissé grâce à lui. Or, Mère de Cissé nie. Elle nie ce fait. Elle tait héroïquement le nom de la personne qui, elle-même trompée, lui a recommandé Carbon. Or, Mère de Cissé sait qu'elle risque la peine de mort, mais aucun piège à l'interrogatoire va la faire varier dans ses réponses. Tout le drame du procès est là. Mais quand vient le moment où le président du tribunal appelle les témoins à décharge, ce qui se passe est absolument phénoménal. L'avocat fait remarquer que le palais de justice était trop petit pour contenir toutes les personnes qui s'offraient pour témoigner en faveur de Mademoiselle Adélaïde. Les autorités d'Ille-et-Vilaine avaient envoyé de nombreux certificats louant la charité de Mademoiselle de Cissé. Ensuite, c'était le témoignage de prêtres secourus, puis plus de 200 témoins, hommes et femmes, sans distinction de parti, sont accourus de toutes sortes de quartiers de Paris. C'était des pauvres, des enfants, des malheureux de toute espèce, et tous ont témoigné en faveur de celle qui avait été leur bienfaitrice. Alors l'avocat termine en disant, le crime du 3 Nivose, c'est le mois de Nivose, hein, ils avaient changé le nom des mois, le crime du 3 Nivose a fait des veuves, rendez donc à la société celle par qui les veuves furent secourues et consolées. Ce crime a fait des pauvres, etc., rendez, etc. Et l'acquittement a été prononcé à l'unanimité. Et de la foule est sortie une longue acclamation. Ce fut une véritable triomphe à sa sortie. D'une certaine façon, on peut dire que ce procès, c'était presque un procès de canonisation. Alors, le 19 janvier 1801, jour de l'arrestation de Mademoiselle de Cissé, le pape, à Rome, approuvait verbalement ce mode de vie nouveau de la Société des Filles du Cœur de Marie. On écrit, il recommanda la circonspection, mais enjoignit de ne point se faire une loi du secret qu'on avait cru devoir imposer jusqu'alors. Donc, il n'est pas question que les sœurs vivent absolument dans le secret. Elles pourront dire qu'elles sont religieuses et le signaler à l'occasion. Quand elle est libérée, Mademoiselle de Cissé s'en va à Rouen. Le 15 août 1801, les diocèses étaient reconstitués, parce que c'était la paix, enfin. Et son frère Jérôme, archevêque de Bordeaux, qui a été nommé à Aix-en-Provence, il l'invite en Provence. Elle va y aller en descendant le Rhône en bateau. Elle était là pour l'entrée solennelle de son frère dans sa ville épiscopale. Elle s'occupe des pauvres. Elle y recrute des filles du cœur de Marie. Elle organise la congrégation. Le père de Clorivière, lui, est aussi invité à se rendre en Provence où il fait plus beau, hein. et la veille de l'Épiphanie, donc au mois de janvier, c'était le 5 janvier 1803, il a vu tout un groupe de postulants qui étaient prêts à se consacrer à Dieu, comme fille du cœur de Marie. Le frère évêque, le monseigneur de Cissé, qui est irrésolu, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, mondain, et c'est pas un évêque bien sympathique, tout opposé à l'établissement des deux congrégations là, de prêtres et de sœurs dans son diocèse. Alors le père de Clairivière puis maire de Cissé sont obligés de quitter la province en septembre 1803. Et avant de rentrer à Paris, mademoiselle de Cissé fait une retraite chez les Trappistes, à la Trappe de Valenton. Cette retraite assez sévère va la fatiguer. Mais tout le monde se réjouit à son retour. Cette joie se change en tristesse, car mère de Cissé tombe gravement malade. Les policiers, eux, suivaient à la piste mère de Cissé et le père de Clairivière depuis la Provence. Hein? Alors le père est arrêté à son domicile le 5 mai 1804 rue Notre-Dame-des-Champs, où les filles du cœur de Marie sont toujours installées à Paris, rue Notre-Dame-des-Champs. Mère de Cissé n'a pas été enfermée en prison car elle était trop malade. Mais la police, tout en la laissant libre, la surveille de très près. Mère de Cissé devait redoubler de prudence. Alors elle désigne Madame de Carcado, et qui était une femme très importante à la cour et qui était rentrée chez les filles de Marie, pour être seule chargée des rapports avec le père de Clairivière. Mère de Cissé, malgré sa fatigue, a vu grandir ses responsabilités, non seulement vis-à-vis de la Société des filles du cœur de Marie, mais aussi vis-à-vis des pères du cœur de Jésus, fondés par le père de Clairivière. Puisque seule, elle pouvait transmettre les directives, les décisions du père de Clairivière, qui était emprisonné. Avec une délicatesse extraordinaire, elle a organisé le ravitaillement de ce pauvre père de Clairivière qui était prisonnier. Deux fois la semaine, Madame de Carcado, je vous le rappelle, qui venait de la cour, elle c'était une dame de compagnie, et Laurence Paumier allait à la prison voir le père. Alors la plus grande privation pour le père de Clairivière était de ne pas pouvoir célébrer la messe. Alors mère de Cissé a obtenu de l'archevêque de Paris la permission de lui envoyer des hosties consacrées qui étaient dissimulées parmi les provisions qu'on lui envoyait. Il y a une petite boîte de fer blanc extrêmement plate qui servait de ciboire. Le père de Clairivière a écrit en août 1804 « Voilà près de 4 mois que je suis détenu. Et pourtant, ce temps ne m'a pas paru long. » Alors, le pape était venu pour le couronnement de Napoléon Bonaparte en 1804, le pape Pie VII. Et mère de Cissé a eu le bonheur de le voir et de participer à sa messe à l'église Saint-Sulpice, qui est tout près de la rue Cassette, où elles étaient. Elle eut une bénédiction pour elle-même et pour toutes ses filles et pour la Société des filles du cœur de Marie tout entière. Et en tant que fondatrice, elle a obtenu une audience du Saint-Père à l'abbaye au Bois. À force de démarches, des filles du cœur de Marie ont obtenu que le père de Clairivière soit transféré de la prison du Temple à la maison de santé du Buisson, place du Trône. Il avait été enfermé 4 ans, sans aucun motif. Alors à la maison de santé, heureusement, il a retrouvé une chapelle, puis là, il a pu dire la messe chaque jour. Sa cause est introduite à Rome, le père de Clairivière. Alors, il put aussi recevoir des visites. Ça va durer encore un an. Et le 11 avril 1809, le père de Clairivière retrouvait enfin la liberté. Enfin. Ça a été épouvantable. Alors, si l'on entre dans le cœur de Mère Adélaïde de Cissé, je vous rappelle comment ça s'écrit, C-I-C-E, accent aigu, on y trouve un très grand amour pour Dieu, comme je vous ai dit au début de l'émission. On y trouve aussi un très grand amour pour Jésus-Christ, un très grand amour pour la très sainte Vierge. Je suis heureux de le signaler à la veille du mois de mai, hein, le mois de Marie. On y trouve aussi dans son cœur un très grand amour pour tout prochain, pour toute personne. Et en août 1791, elle écrivait, au moment de la Révolution, elle écrivait à Mademoiselle Louise de Gouillon, « La consécration que nous faisons, c'est l'offrande la plus entière de soi-même. Son âme et toutes ses puissances, son corps et toutes ses forces, tout ce qu'on peut posséder, tout ce qu'on possède, tout ce qui dépend et tout ce qui dépendra de nous. On ne veut plus rien, on ne désire plus rien que dépendamment de la volonté divine. Et conformément à cette volonté, on veut tout ce qu'elle veut, et comme elle le veut, on ne refuse rien de ce qu'elle ordonne, on accepte toutes les peines, toutes les joies, toutes les croix. C'est une suite du grand précepte de la charité. Vous aimerez le Seigneur, votre Dieu, de toutes vos forces, de toutes vos forces. » Entre 1776 et 1791, lorsqu'elle exprimait comment elle voyait la vie religieuse en plein monde, je vous rappelle, elle a fondé une congrégation de sœurs qui vivent, pour ainsi dire, incognito dans le monde. Elle notait, « Mon désir est aussi que nous soyons particulièrement dévoués à notre Seigneur et à sa Sainte Mère, d'une manière spéciale, et que tous nos exercices de piété et nos œuvres de charité fussent faits particulièrement au nom de Jésus. Elles feront chaque jour de fréquentes visites à notre Seigneur Jésus-Christ, dans son sacrement d'amour. » C'est très beau, c'est le sacrement d'amour, hein, que l'Eucharistie, dans le tabernacle, l'Eucharistie que nous recevons, sacrement d'amour. Il y a un grand amour pour la Sainte Vierge dans son cœur. En septembre 1805, elle écrivait à l'une de ses filles, « Nous sommes les enfants de Marie. Ce bonheur est inestimable. C'est par lui surtout que nous remplissons les intentions de Jésus. Et Dieu veut que nous glorifions son Fils. Sans cela, nous ne le glorifierons pas lui-même. Jésus-Christ veut qu'on honore sa Sainte Mère, ses grandeurs, la gloire de son triomphe et la toute-puissance de son crédit. » De son crédit, c'est-à-dire de son pouvoir d'intercession auprès de Dieu. C'est ça que ça veut dire, son crédit. Elle ajoute, « Quel bonheur d'appartenir à une créature, Marie, à une créature si chérie de Dieu, si singulière en tout, si élevée au-dessus de tout ce qui est créé. Quels avantages inestimables n'en retire-t-on pas ?» Alors, on ne doit pas sans doute négliger de l'honorer extérieurement, mais nous devons nous attacher à le faire intérieurement, dit-elle, par une parfaite conformité de nos sentiments avec les sentiments du cœur de Marie et, par elle, à ceux du cœur de Jésus. Évidemment que dans le cœur de Mère de Cissé, on trouve un grand amour pour tout prochain. Et en vue de plaire à Dieu, Mademoiselle de Cissé aime avec dévouement Marie, mais sa propre mère aussi, ses frères, ses sœurs, ses neveux, ses nièces, les plus pauvres, les malades, les enfants. Mademoiselle Aimable Chenu, le même nom que le fameux père Chenu, grand théologien de ce siècle, malheureusement décédé, que j'avais eu le plaisir d'interviewer à l'émission Rencontre à la télévision de Radio-Canada. Il avait fait sensation dans son costume de dominicain tout blanc. Il nous avait invité à aller prendre un pot à la fin de l'émission. C'était très curieux. Alors, Mademoiselle Aimable Chenu raconte comment Mademoiselle de Cissé est venue la voir avec sa sœur Thérèse. Voici le récit. Elle agréa le frugal dîner qu'elle partagea avec nous. Sur ces entrefaites arriva une de nos petites nièces de 7 à 8 ans, qui se mit à frapper vivement à la porte. Nous ne voulions pas ouvrir pour ne pas interrompre la lecture que nous faisait Mademoiselle de Cissé. Mais celle-ci fit entrer l'enfant et dès lors, elle ne s'occupa plus que d'elle, la caressant, lui donnant un chapelet, lui promettant un beau cantique qu'elle lui envoyait en effet. Je n'oublierai jamais l'air de paix et de grâce qui rayonnait sur son visage.
et après cela, elle reprit la lecture. On voit bien que elle est toute pleine d'attention pour les petits. Elle sacrifie des adultes pour s'occuper d'une enfant de 7-8 ans. Laissez venir à moi les petits-enfants, disait Jésus. Et sentant sa fin prochaine, mère de Cissé a fait des recommandations très pressantes à ses filles, les filles du cœur de Marie. Nous vous recommandons bien instamment de veiller à entretenir les unes avec les autres l'union la plus douce, la plus intime. Ce qu'on ne peut espérer qu'autant que chacune de nous sera prête de faire à la charité toute espèce de sacrifice. Si nous y sommes bien fidèles, notre Seigneur, selon sa promesse, sera lui-même au milieu de nous. Il nous dira toujours de le considérer lui-même dans le prochain, et en particulier dans chacune de nos sœurs. N'oublions pas les paroles de Jésus. « Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. » Et quand des incroyants arrivent au ciel, ils sont tous surpris d'être bien reçus, et Dieu leur dit, « Quand vous vous occupiez des plus pauvres, c'est de moi que vous vous occupiez. » Alors, Mère de Cissé ajoute, « Avec quelle douce et tendre charité ne nous comporterons-nous pas envers chacune de nos sœurs. Cette charité que nous nous devons les unes aux autres ne doit pas nuire à la charité générale que nous devons au prochain et qui doit être pure et désintéressée. » Et alors, au printemps 1818, elle réunit chez Madame Blanquet ses filles de Paris. Elle les bénit après s'être profondément recueillie dans le Seigneur. Tout ensemble, elle pressentait que c'était la dernière fois que Mère de Cissé était au milieu de ses filles. L'émotion était évidemment profonde. Mère de Cissé habitait rue de Babylone. C'est pas loin de Saint-Sulpice encore, hein, rue de Babylone. Elle habitait là un appartement qui était attenant à l'église paroissiale des missions étrangères. Et cet appartement possédait une petite tribune ouverte sur l'église et sur l'autel des missions étrangères. Le 15 avril, une fièvre bilieuse s'est déclarée et qui n'a laissé aucun espoir de guérison. Alors le père de Clorivière, malgré ses infirmités, est venu la visiter. Il essayait de la fortifier. Il n'a pas confessé, Mère de Cissé, à cause de sa surdité. C'était Monsieur l'abbé Desjardins, un bon nom québécois, hein, l'abbé Desjardins qui l'a confessé. Mère de Cissé a demandé elle-même le sacrement des malades, qui lui était administré par l'abbé Desjardins. Elle a renouvelé ses vœux, elle a demandé pardon pour tout ce qui aurait peiné les autres. Elle a communié avec beaucoup de ferveur et elle disait, personne ne peut deviner le besoin extrême que j'ai de passer le plus de temps qu'il m'est possible devant le Saint-Sacrement. Alors, elle s'est fait transporter à la tribune de l'église. La tribune de l'église, c'est, une espèce de balcon, si vous voulez, comme on a dans les salles de concert, la tribune de l'église, hein, qui donnait à l'étage où elle était. Et le jour qui a précédé sa mort, elle est demeurée longtemps à la tribune, les yeux fixés sur le tabernacle, sans pouvoir les en détacher. Le samedi, vers 8 heures du soir, elle s'y est fait encore transporter. Elle ne pouvait plus parler, mais son regard disait sa joie et son amour pour Jésus. Parfois, elle détournait les yeux, elle souriait doucement à ses filles, qui, à ses côtés, récitaient les prières des agonisants, car elle les entendait. Et c'est là que le 26 avril 1818, vers 4 heures du matin, devant le Saint-Sacrement, comme va mourir d'ailleurs le père de Clorivière, devant le Saint-Sacrement, elle s'est endormie dans la paix du Seigneur. Et c'est là qu'elle l'a vue face à face pour l'éternité. Elle a laissé un vide immense, mais du ciel elle l'aime et elle conduit ses filles. Meilleur des Sissi a tout donné. Et son esprit, sa façon de vivre pour le Christ, au milieu du monde, sans être du monde, ça continue. Il y a des milliers de filles du cœur de Marie dans le monde qui font ce qu'elle a fait, la première. Ces femmes-là le font aujourd'hui. Au premier siècle de l'Église, il y a eu des saintes dont on connaît les noms, Agathe, Agnès, Cécile, étaient aussi des vierges consacrées qui vivaient en plein monde. Alors, cette demoiselle qui soigne son vieux père paralysé, c'est peut-être une fille du cœur de Marie, on ne sait pas. Cette autre qui travaille au bureau de poste, et celle-là qui est catéchiste à la paroisse, celle-là qui est médecin ou qui est assistante sociale, elles habitent au cœur d'une cité ouvrière et qui sont-elles, mais les filles du cœur de Marie, ce sont des filles du cœur de Marie. Ces demoiselles vivent en communauté. Elles sortent pour visiter les prisonniers. Elles alphabétisent les étrangers. Elles sont deux ou trois des fois. Elles accueillent des jeunes filles. Et les autres dirigent une école technique pour que les jeunes filles d'humbles conditions aient un métier du travail. Ce sont des filles du cœur de Marie. Elles sont souvent jaunes, blanches, noires, de toutes les races. Il y en a Asie, au Japon, en Inde, au Pakistan, en Amérique du Nord, du Sud, en Afrique, à Madagascar, en Europe, partout. L'esprit d'amour brûle en leur cœur. Il embrase tout l'univers. Ce feu, qui est un don divin de Dieu, ne s'éteindra jamais.